écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, et justement, savez-vous qu'il y a des baleines en Méditerranée ? On peut d'ailleurs apercevoir leur souffle loin pendant la traversée vers la Corse, par exemple. C'est le genre d'information que nous aimons connaître et que nous pouvons retrouver au musée océanographique de Monaco. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de poissons, mais de l'histoire de ce musée joyau de la Principauté.
Agora Côte d'Azur.
Reportage.
Je vous emmène dans le quartier du Rocher où se trouve le musée océanographique de Monaco. Vous le connaissez tous, alors attardons-nous plutôt sur l'histoire de ce bâtiment. L'Institut océanographique est fondé par Albert Ier, prince de Monaco en 1909. Arrière-grand-père de son Altesse Sérénissime, le prince souverain de Monaco, Albert II, le prince Albert Ier était un navigateur passionné.
Éloigne-toi de là ! Tu n'as pas la permission de monter à bord de ce navire !
J'ai pas pu résister, c'est un superbe bateau. Navire.
Il a consacré sa vie à la recherche et à l'expédition océanographique à travers le monde. Il était surnommé le prince navigateur savant. Il entreprend ses premières campagnes scientifiques dès 1885. C'est en 1906 qu'il crée l'Institut océanographique. Enfin, le 29 mars 1910, le musée océanographique est inauguré à Monaco. Sa devise, faire connaître et protéger l'océan.
Vous tous qui aimez la mer, aidez-nous à la protéger.
Un bâtiment pour le public qui a la vocation de l'informer sur les spécimens pour les protéger. Les travaux de construction du musée de 6000 m² durent 11 ans. Le bâtiment fait face à la mer Méditerranée et c'est le plus imposant du Rocher.
Regarde, ici, c'est toi, d'accord ?
Je suis un caillou.
Il est construit à flanc de falaise sur 85 mètres de hauteur. Dessiné par l'architecte français Paul Delefortrie, ce dernier a voulu lui donner un style néo-baroque. Ce courant artistique de la fin du XIXe siècle est né en France. Il reprend les composantes de l'architecture baroque, c'est-à-dire une architecture qui se rapproche de l'esthétique de l'Antiquité tout en s'alliant à une théâtralité et une monumentalité particulière.
Et c'est quoi cette porte au plafond ?
Ah ça, je sais pas. Ah, faut voir avec numéro 8 l'architecte.
Les architectes, avec les réparateurs de chars, il va plus escrocs et incompétents.
La façade avant du musée se caractérise par une répétition de larges baies vitrées sur les façades. L'entrée fait référence au temple grec, composé de colonnes corinthiennes dont le chapiteau est orné. Le fronton est triangulaire, ce qui forme un toit à double pente au-dessus des colonnes. Le tympan est composé d'une ornementation qui représente le blason de l'Institut. Des statues imbriquées dans la façade donnent vie au bâtiment. On retrouve des figures mythologiques, des personnages ailés et des scènes dramatiques. L'intérieur du bâtiment est haut de plafond, de manière à accueillir les expositions. Les balustrades sont en fer forgé, comprenant des arabesques. Les pièces d'exposition sont très éclairées grâce aux grandes baies vitrées. Certaines salles sont plus ornées, avec des plafonds à caissons composés de reliefs de couleurs en forme géométrique. On retrouve des carrés, des losanges, des couleurs or ou bleu qui s'inscrivent dans un style art déco. Les lustres sont imposants et travaillés finement. Les espaces d'exposition font penser aux cabinets de curiosité.
C'est magnifique, ici.
Oui, il y a de belles pièces.
Hormis les salles d'exposition et de conférences, les sous-sols sont consacrés aux aquariums. Là, on retrouve différents secteurs qui nous plongent directement au cœur de l'océan. Le lagon aux requins, les mers tropicales ou la mer Méditerranée, le tout contient une centaine de bassins. Rien que l'espace Méditerranée possède 100 espèces de poissons. On retrouve en tout 350 espaces à poissons et 6000 spécimens.